It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Il y a 25 ans, le 28 septembre 1991, disparaissait l'un des plus étonnants trompettistes et chefs d'orchestre de l'histoire du jazz. Il s'appelait Miles Davis. Tout au long de sa vie, il n'avait cessé de se remettre en question, d'expérimenter, d'avancer sans jamais regarder dans le passé. Il savait quelles étaient ses racines, mais préférait l'audace, le risque, le pari de la nouveauté. C'est ainsi qu'il parvint à rester un musicien en perpétuel mouvement et un artiste créatif. Pourtant, le 8 juillet 1991, quelques semaines avant de quitter ce monde, il acceptait, à l'invitation de son ami Quincy Jones, de réinterpréter ses œuvres d'autrefois et notamment son répertoire des années 50 en grande formation. Ce fut la dernière prestation de Miles Davis à Montreux et l'une des plus émouvantes. Mais avant de nous attarder sur cet instant unique, remontons le cours de l'histoire. Plutôt que de vous narrer une nouvelle fois l'épopée Miles Davis, nous avons décidé de nous intéresser aux différentes apparitions de ce grand personnage à Montreux, en Suisse, car c'est là, au bord du lac Léman, que Miles Davis a donné ses plus beaux concerts. De 1973 à 1991, il s'y est produit une bonne dizaine de fois, avec l'envie constante de présenter à chaque fois de nouveaux musiciens, à qui il donnait leur chance. C'est ainsi que nous avons pu découvrir, au fil des décennies, la valeur de jeunes virtuoses comme Kenny Garrett, Robin Ford, Wallace Roney ou Darryl Jones. Chacun d'eux devait donner le meilleur de lui-même face à une légende du jazz afro-américain. En juillet 2016, un quart de siècle après l'ultime prestation de Miles Davis à Montreux, certains de ses anciens jeunes comparses, devenus aujourd'hui des personnalités reconnues, ont profité de leur passage au 50e Montreux Jazz Festival pour évoquer le maestro et se souvenir de leur collaboration sur scène il y a plus de 30 ans. Le bassiste Darryl Jones a surtout gardé en mémoire la flamboyance du personnage.
I remember what he was wearing, which he would be happy, that would be enough for him.
Je me souviens surtout de ce qu'il portait ce jour-là. Le look était essentiel pour lui. Il avait ce costume lamé bleu très classe qui lui donnait du style. C'était en 1984 ou 1985, je ne sais plus trop. Ce fut en tout cas ma première prestation à Montreux et quel souvenir! Le public était très attentif et j'étais ravi d'être présenté sur scène à ces spectateurs-là par une icône du XXe siècle. Depuis ma collaboration avec Miles, j'ai évidemment progressé, je lui dois d'ailleurs cette évolution. C'est donc un plaisir de se retourner sur le passé et de jouer quelques titres de cette époque avec l'expérience qui est la mienne aujourd'hui. J'espère que je joue un peu mieux qu'il y a 30 ans, mais je dois reconnaître que son esprit est avec moi chaque fois que j'interprète une de ses œuvres. J'essaye d'imaginer ce qu'il aurait voulu ou espéré de ma prestation. Jouer avec Miles a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver, même si j'ai partagé la scène avec bien d'autres musiciens avant et après lui.
I do always have him in mind.
Le saxophoniste Bill Evans fit également partie de l'aventure Miles Davis au cœur des années 80. Et bien qu'il ait conscience de l'importance capitale d'une telle rencontre dans sa vie, il aimerait que le public et les critiques montrent davantage d'intérêt pour son travail actuel. Être constamment renvoyé à ses années passées avec Miles Davis l'honore, mais l'irrite à la fois. Et lorsqu'on lui demande de commenter un document vidéo de 1984, il remet poliment les pendules à l'heure.
I haven't seen him in so long, it's been 30 some years.
Je n'ai pas revu ces archives depuis facilement 30 ans. Je laisse donc aux journalistes le soin de juger ma prestation de l'époque. Depuis, j'ai avancé dans ma carrière. J'ai enregistré une bonne vingtaine d'albums sous mon nom et ma musique a évolué. Alors quand on me demande ce que je faisais il y a des lustres, c'est assez difficile de répondre instantanément. Cependant, je prendrai toujours plaisir à évoquer Miles car j'ai eu ce privilège de jouer à ses côtés. Chick Corea et Herbie Hancock ont la même attitude à ce sujet. Ils savent qu'on leur posera toujours des questions sur leur collaboration avec Miles, mais ils répondront toujours car ils sont reconnaissants. Ceci étant dit, on aimerait toujours être reconnu pour tout le travail que nous avons abattu depuis l'époque de Miles Davis. Ce patrimoine-là est certes le fruit de notre association avec Miles, mais il nous appartient. J'ai beaucoup observé Miles Davis, j'ai discuté avec lui, j'ai appris de lui. Ce que nous créions ensemble a une incidence sur ce que je crée aujourd'hui. J'ai gagné en confiance, j'ai compris que je pouvais m'autoriser à jouer tout type de musique, en tout cas celle qui m'inspire. Miles lui-même m'y encourageait. Il me disait souvent « Crois en toi et le public te suivra ». Comme Bill Evans et Daryl Jones, le guitariste Robin Ford jouit aujourd'hui d'une belle notoriété grâce à son association avec Miles Davis dans les années 80, mais ne veut pas se laisser enfermer dans l'image de l'ancien partenaire de Miles Davis. Il a depuis cette époque fait paraître lui aussi une bonne vingtaine d'albums sous son nom, mais ne peut que reconnaître l'impact de sa prestation à Montreux aux côtés de Miles Davis le 17 juillet 1986 sur l'ensemble de sa carrière.
It was very exciting. the fact that it was being recorded, you know, for a record that was never released until now, was exciting.
Ce fut un moment très excitant. Le fait que cette prestation ait été enregistrée et qu'elle ait été oubliée jusqu'à cette parution récente la rend encore plus précieuse. Pour moi, ce concert représente la quintessence de Miles Davis. Il n'avait jamais aussi bien joué. Chaque fois que je réécoute cet enregistrement, j'entends le meilleur de Miles. Je suis donc enchanté d'avoir été à ses côtés ce jour-là.
Where he was really on.
You know, meeting and working with Miles Davis obviously was, you know, a priceless experience.
Rencontrer et jouer avec Miles fut une expérience inqualifiable. La première fois que je l'ai rencontré, c'était backstage, avant le concert que je donnais à ses côtés. Nous n'avions pas répété, c'était terrifiant. J'ai cru que je ne m'en relèverais jamais. Il a réussi à me rassurer un peu. Quand je me suis avancé vers lui, il a pris mon bras et m'a glissé à l'oreille. « Tu comptes adopter quel look pour la scène ?» Il est vrai que j'étais habillé de façon très conventionnelle. Il ne m'a posé aucune question sur la musique. On est resté là à discuter 10 minutes, et puis il m'a dit « On se retrouve sur scène ». J'ai quitté sa loge, je l'ai rejoint sur scène, et ce fut terrifiant.
Terrifying, absolutely terrifying. It was the legend in front of me, you know. I mean, when I came to meet him.
La toute première fois, j'ai vu une légende devant moi. Quand j'ai décidé d'aller à sa rencontre, il m'a d'abord fallu trouver sa loge. Une fois devant sa porte, j'ai entendu ce son de trompette si particulier. C'était Miles. Il était derrière cette porte en train de répéter. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte, il était là, courbé sur sa trompette rouge, un look d'une classe, c'était Miles. J'ai failli m'évanouir, j'étais muet mais si fier d'être là. Nous avons donc rejoint la scène et notre complicité est née durant le concert. J'ai très vite réalisé qu'il était heureux de jouer avec moi, cela m'a tranquillisé un peu. C'était un musicien qui aimait les défis, il cherchait sans cesse à vous provoquer sur scène pour vous tester. Si vous aviez du répondant, il appréciait. Il cherchait à vous installer sur scène, à imposer votre présence. Être un musicien d'accompagnement ne l'intéressait pas. J'ai évidemment été en admiration au début, mais après 2 concerts, j'ai compris qu'il fallait être dans le concert, heureux mais concentré. Il m'a testé et je lui ai fait comprendre que j'étais là. Après cela, il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Il m'appelait au téléphone pour me féliciter à sa façon. Il me faisait écouter l'enregistrement du concert à travers le combiné et ajoutait « Écoute ça, tu as super bien joué ce soir. » C'était une période géniale.
You're playing your ass off, you know, some concert somewhere. And it was great, man. It was just great.
Ce titre, divinement interprété par Robin Ford lors du concert de Miles Davis à Montreux en juillet 1986, s'appelle « Jean-Pierre ». Il s'agit d'un des classiques de Miles Davis, inspiré d'une bluette pour enfants que Miles avait conservée en mémoire depuis les années 60. Bien des années plus tard, cette ritournelle lui est revenue à l'esprit. Mike Stern, l'un des guitaristes de Miles Davis, était présent ce jour-là.
It's not really his tune. I think it's a French folk song, isn't it, originally? Dun, dun, les enfants, dun, 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 dun. And I was in the.
Ce n'est pas vraiment une composition de Miles Davis. C'était une comptine française à l'origine. J'étais à l'époque chez Miles Davis, dans son appartement, et nous répétions avec Al Foster dans le studio personnel de Miles, dans un décor plutôt funky. Marcus Miller était là, Bill Evans également, Mino Sinelu, et Gil Evans, le grand orchestrateur, était à nos côtés. Miles![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ cherchait un gimmick, un refrain pour l'un de ses titres. Mais il ne savait pas par où commencer. On lui proposait quelques idées, mais rien de précis, juste des ébauches un peu foireuses. On ne savait pas trop où on allait et ce qui allait ressortir de cette répétition. Lui non plus d'ailleurs. Il voulait seulement tenter des choses, pour voir. On jouait depuis un quart d'heure et soudain, Gil Evans, qui était assis dans l'escalier du studio, lui dit « Hey Miles, tu te souviens de ça ?»
And Gil started playing, hey Miles, remember this? On melodica. He had a little melodica.
Et là, je vois subitement le visage de Miles s'éclairer. Marcus prend alors sa basse. Il a installé ce groove imparable et voilà comment est né Jean-Pierre. Mais ce thème est issu d'une comptine pour enfants que Miles jouait déjà dans le passé au milieu de ses solos. Il l'avait découverte quand il vivait à Paris avec Juliette Gréco dans les années 50 ou 60. Il existe d'ailleurs des enregistrements de l'époque où on l'entend précisément jouer ces six petites notes pendant un solo de trompette. Je l'entends encore me dire « c'est joli ça, j'aime bien ». Et donc, grâce à Gil Evans, cette comptine est devenue un classique de Miles Davis. Ce n'est pas vraiment lui l'auteur. Ce qui est assez courant chez Miles Davis, il aimait emprunter à d'autres des mélodies qu'il réadaptait.
And something that he used to quote from, and it came out great. So people want me to play that all the time because I'm on that record, you know. If you had to call him one thing, I would say he was a jazz musician. But what does that mean? I mean, of course, his jazz.
Si on devait définir Miles Davis, je dirais évidemment qu'il était d'abord un musicien de jazz. Mais quel est le sens du mot jazz aujourd'hui? Son univers jazz accueillait d'autres formes d'expression. C'était un aventurier dans le monde du jazz, sûrement le plus aventurier de tous les musiciens de jazz. Nous ne sommes rien face à lui. Réfléchissez une seconde à tout ce qu'il a enregistré. C'était à chaque fois différent, étonnant, et il parvenait malgré tout à imprimer sa patte personnelle. Quand je l'ai rencontré, nous avons très vite conversé ensemble et j'ai pu comprendre d'où il venait, ce qu'il voulait faire. Mais il m'a surtout encouragé à conserver mon identité. J'ai réalisé qui j'étais grâce à lui. Il me disait de ne jamais oublier mes racines, le fait que ma mère écoutait des disques de musique classique à la maison et que cela avait forcément une résonance dans mon inconscient. Bref, j'avais en moi toutes sortes d'influences. Et lorsque j'ai joué avec Miles, je savais que lui-même était un musicien très ouvert. Mais de le voir créer sur place, cette musique si particulière, m'a convaincu qu'il était toujours possible d'inventer. C'est encore plus flagrant aujourd'hui. J'écoute ses disques et je me dis que cet homme n'a cessé de se remettre en question. Mais peut-être avions-nous en commun cette volonté d'intégrer différentes formes d'expression, différentes cultures dans le jazz. Parmi les instrumentistes dont Miles Davis a su flairer le génie, il y a le saxophoniste Kenny Garrett. Lui aussi est devenu un grand, lui aussi jouait avec Miles à Montreux, lui aussi éprouve la plus sincère reconnaissance pour son parrain et mentor. Je fais souvent la comparaison entre Miles Davis et Art Blakey. Ce sont des institutions. Ils ont tous les deux permis à de jeunes musiciens de faire leurs premières armes pour apprendre à s'améliorer rapidement. On ne trouve plus cela aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la musique évolue si lentement. Il n'y a pas assez de musiciens prêts à donner leur chance à de jeunes talents et dire « voilà ce que j'ai à vous proposer ». Je n'ai pas seulement appris la musique avec Miles, j'ai surtout appris la vie, j'ai appris à grandir. C'est en suivant cette éducation que j'ai compris que le rap, c'est aussi de la musique, contrairement à ce que peuvent dire certains musiciens qui n'ont pas fait l'effort d'écouter et qui s'en sont même écartés. Le rap est une musique à part entière parce qu'il repose sur des bases précises. Miles l'avait bien compris.
Because it has a foundation. Music has to have a foundation. You know.
En début d'émission, j'évoquais l'ultime concert de Miles Davis à Montreux le 8 juillet 1991, deux mois avant sa mort. Ce jour-là, son ami Quincy Jones avait mis les petits plats dans les grands pour convaincre Miles de réinterpréter ses œuvres passées. Il avait convié le Gil Evans Orchestra et avait accepté de satisfaire tous les désirs du maître. Miles Davis avait par exemple insisté pour que le jeune trompettiste Wallace Roney le seconde sur scène lors de ce concert événement. Depuis quelques années, Miles l'avait pris sous son aile et lui avait même offert sa propre trompette. Wallace Roney n'a évidemment jamais oublié ce geste très symbolique de son aîné, mais on chercha longtemps la raison réelle, jusqu'à sa conversation avec Tony Williams, l'ancien batteur de Miles Davis.
Tony Williams told me long time ago, Miles gave it to you because he knew you could handle it.
Tony Williams m'avait dit il y a bien longtemps, Miles te l'a donné parce qu'il savait que tu en serais digne. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. Tout le monde me tombait dessus, mais Miles n'avait pas l'air inquiet de cette situation. Miles connaissait mon parcours, il me répétait sans cesse, continue, ne t'arrête pas, je t'écoute, tu dois poursuivre ta route. Ne les laisse pas décider à ta place, ils ne te laisseront pas jouer à ta façon. Miles n'aimait pas les clones. Il existe tant de musiciens qui cherchent à entrer dans la peau de Miles. Là, j'ai compris son message et j'ai fait le choix de ne pas fuir l'influence de Miles, mais de m'en servir pour proposer ma vision des choses, pour exprimer la manière dont j'entends la musique. Miles est le musicien qui m'a le plus influencé. C'était un poète à la trompette. Je veux m'inspirer de cela, mais ce n'est pas parce que vous admettez lui devoir énormément que cela vous oblige à reproduire ses solos à la note près. Vous avez plutôt intérêt à utiliser ces éléments qui ont fait de lui un poète du jazz pour développer votre son. N'oubliez pas que lorsque j'ai joué à ses côtés à Montreux, je connaissais déjà Miles depuis 1984. Nous étions sur scène comme un père et son fils, comme Louis Armstrong et Joe Oliver. Mais certes, c'est la première fois que je jouais en public avec lui. J'avais déjà jammé en privé ou en répétition à ses côtés. Je l'écoutais jouer. J'étais toujours dans un coin à l'observer, mais jamais nous n'avions partagé la même scène ensemble. Chez lui, parfois, il se mettait au piano pour me voir jouer, mais ce concert à Montreux fut incroyable.
Trumpet to trumpet like that. And yes, it was amazing.
My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis!
C'était le 8 juillet 1991 à Montreux. Miles Davis brillait dans le feu des projecteurs, secondé par Wallace Roney et Kenny Garrett, soutenu par le Gil Evans Orchestra et dirigé par Quincy Jones. C'était la dernière lumineuse prestation du trompettiste avant sa disparition, survenue le 28 septembre 1991, il y a donc 25 ans. Inutile de vous dire que les commémorations vont se multiplier jusqu'à la fin de l'année 2016. La maison Sony Legacy fera paraître le 21 octobre prochain un coffret 3 CD intitulé Freedom Jazz Dance et qui réunit toutes les sessions d'enregistrement réalisées entre 1966 et 1968 par Miles Davis, entouré de Wayne Shorter au saxophone, Ron Carter à la contrebasse, Tony Williams à la batterie et Herbie Hancock au piano. Ce coffret est le volume 5 d'une collection qui a déjà présenté diverses prestations de Miles Davis à Newport, au Fillmore East de New York ou encore en Europe en 1967. Je vous informe par ailleurs que le journaliste Franck Medioni fait paraître « Lettres à Miles » chez Alter Ego Éditions, un recueil de 55 textes signés par les meilleurs instrumentistes d'aujourd'hui en mémoire de Miles Davis. Une soirée de lecture sera d'ailleurs organisée le 1er octobre prochain à la Maison de la Poésie à Paris, dans le 3e arrondissement. Je vous recommande également le dernier numéro de Jazz Magazine intitulé La Galaxie Miles et qui propose 50 portraits des meilleurs partenaires de Miles au fil des décennies, du saxophoniste Charlie Parker au rappeur Easy Mo Bee. Et notez enfin que quelques-uns des anciens musiciens de Miles Davis sont à Paris cet automne. Le saxophoniste Dave Liebman, le 28 septembre au New Morning, date éminemment symbolique puisque c'est la date de la disparition de Miles Davis il y a 25 ans. Le guitariste John Scofield se produira lui aussi au New Morning le 20 octobre. Et le saxophoniste Wayne Shorter, 83 ans, se produira le 29 novembre à la Philharmonie de Paris. Vous savez tout, la semaine prochaine, nous accueillerons le bassiste Larry Graham qui ne nous parlera pas de son épopée funk, mais de son ami et génial compositeur Roger Nelson Prince, disparu le 21 avril dernier à l'âge de 57 ans et à qui il tenait à rendre hommage à notre micro. Merci à Nathalie Laporte pour être allée rechercher de précieux documents dans les archives de Montreux. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
Miles Davis!
Tous les cinémas du monde.